Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgaard pour vous présenter ce podcast Escale. Cette semaine, nous allons parler du racisme avec Ali Ndiaye, alias Webster, artiste hip-hop et conférencier. De mère québécoise et de père sénégalais, Webster est un artiste engagé. Son thème de prédilection, l'histoire de la présence afro-descendante et l'esclavage au Québec et au Canada. Depuis leur création en 1945, les Nations Unies œuvrent en faveur des droits de l'homme et de l'éradication du racisme et de la discrimination raciale dans le monde.
L'Afrique du Sud accueille la conférence de l'ONU contre le racisme. À l'ordre du jour, l'esclavage vécu pendant des siècles par les pays africains.
Il y a 20 ans, la conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée s'est tenue à Durban, en Afrique du Sud. Cette conférence a débouché sur le programme le plus complet en la matière, la déclaration et le programme d'action de Durban.
Cette conférence commence très mal, la liste des absents est très très longue. Tous ces pays ont simplement estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour éviter...
En avril 2009, la conférence d'examen de Durban, qui s'est tenue à Genève, a évalué les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs fixés par la conférence de Durban de 2001, vaincre le racisme. Elle a conclu qu'il restait beaucoup à faire. Mais où en sommes-nous 20 ans après ? L'occasion de poser la question à Webster.
J'ai envie de dire, on avance de deux pas, on recule de deux pas. Donc, pratiquement du sur place. Toutefois, pour ce qui est des deux pas en avant, on réussit à avoir de plus grandes discussions. Je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui réalisent que le racisme existe et que le racisme est à la base un peu à contribuer à façonner ce que nous sommes en tant que planète Terre aujourd'hui et que le racisme est une force incontournable qui a permis la colonisation, qui a permis l'esclavage, qui a permis d'entrer dans la révolution industrielle. Souvent, on ne fait pas le lien, on parle toujours en termes de marxisme, de capitalisme, mais on oublie de parler en termes de racisme aussi. Et donc, le racisme comme système politique, finalement, comme force motrice, on l'oublie beaucoup. Et donc, je crois que tranquillement, on réussit à avoir cette conversation. Tranquillement, mais ça commence à entrer un peu plus dans l'espace public que dans des conversations nichées, j'ai envie de dire, entre militants, si on veut. Et donc ça, je dirais que ce sont les deux pas en avant. Pour ce qui est des deux pas en arrière, je crois que le racisme et la xénophobie sont de plus en plus décomplexés. Donc, avant, c'était des mouvements, des discours qui étaient assez marginalisés, mais qu'on retrouve de plus en plus dans l'espace public et dans les hautes sphères, que ce soit étatique ou encore de compagnie ou XY. Donc, il y a cette manière décomplexée de passer le racisme sur le dos de la liberté d'expression et même du courage de dénoncer ce qui ne pouvait pas être dénoncé avant à cause du politiquement correct. Et donc, et on l'a vu avec, ou même on le voit avec plusieurs chefs d'État, avec plusieurs personnes qui voudraient être chefs d'État. On le voit dans plusieurs médias aussi. Et bon, naturellement, on a tous et toutes en tête les États-Unis, mais pas que les États-Unis. On le voit chez nous au Canada, on le voit partout ailleurs dans le monde. Et on dirait qu'il y a moins d'opprobre dans l'espace public face au racisme. C'est comme si, peut-être c'est une illusion, quand j'étais plus jeune, une illusion d'enfance, mais j'ai l'impression que des propos racistes étaient plus rapidement dénoncés sur la place publique. Mais peut-être je me trompe aussi.
Tu dis que t'es pas raciste, mais tu détestes les musulmans. Dans tes veines, tu vis la rage comme sur une musulmane. Avant, c'était les Noirs. Maintenant, c'est les Arabes. Depuis septembre, tout à Zouan, les immigrants et les Arabes.
Est-ce que vous pensez que les médias sociaux ont exacerbé ces mouvements, cette ouverture dans un sens?
Oui, toujours si on prend l'image des deux pas en avant, les deux pas en arrière. Mais oui, parce que les médias sociaux ont réussi à créer une mobilisation. On réussit à rendre accessibles bien des connaissances, bien des concepts, mais aussi de l'autre côté, dans les deux sens, c'est-à-dire que bien rendre accessibles bien des concepts, mais bien des concepts racistes aussi, bien des concepts conspirationnistes, bien des concepts xénophobes. Donc, les réseaux sociaux ont aidé à attiser ce feu-là. Toutefois, le danger que je vois avec les réseaux sociaux, c'est qu'il est facile désormais de prendre position sur les réseaux sociaux et d'en se tenir à ça. C'est-à-dire, au lieu de prendre action dans la vie réelle, les gens vont souvent dénoncer sur les réseaux sociaux et sentir que l'action est faite. Et donc, il y a j'ai envie de dire, il y a un degré de satisfaction très facilitant à travers les réseaux sociaux, où est-ce qu'on a l'impression qu'on a fait quelque chose, qu'on a commis une action, et ensuite on peut passer à d'autres choses et rester chez soi. Mais je pense que les réseaux sociaux doivent être accompagnés de prises de position dans la vie, dans la rue, dans les différentes institutions. Donc, pour moi, c'est vraiment à triple tranchant. Les réseaux sociaux sont à triple tranchant.
Beaucoup de voix se sont levées cette dernière année et encore aujourd'hui contre les événements racistes qui se sont passés aux États-Unis ainsi que dans beaucoup de pays du monde. Pensez-vous qu'il est important d'avoir justement une perspective historique pour comprendre ce que nous avons vécu en 2020 et encore aujourd'hui?
Je pense qu'on ne peut pas comprendre ces événements sans avoir une perspective historique. Parce que tout ça ne sort pas d'un chapeau soudainement. Je veux dire, cet homme ne s'est pas agenouillé sur le cou de cet autre homme de nulle part. Et je pense que c'est symptomatique d'un système qui a été construit sur le racisme. Il ne faut pas oublier que notre monde d'aujourd'hui a été bâti sur les derniers siècles et des derniers siècles qui ont été trempés dans le racisme. Comme je le disais, c'est le racisme qui a permis la colonisation et des Amériques et du reste du monde. C'est le racisme qui a permis l'esclavage. Donc, un labeur forcé noir qui cultive des terres autochtones non cédées pour enrichir l'Europe, qui a finalement pu entrer dans la révolution industrielle et conquérir le reste du monde. Et donc, cette notion de racisme est essentielle à pouvoir comprendre, la notion de racisme systémique, la notion de suprématie blanche, de privilège blanc, ces notions de, j'ai envie de dire, cette espèce de disparité économique entre le Nord et le Sud, le racisme n'est pas étranger à ça. Les derniers siècles ne sont pas étrangers, l'esclavage, la colonisation ne sont pas étrangers à ça. Et même notre manière de voir, de diviser l'humanité en dites races provient de cette histoire-là aussi, parce que la notion de race est une notion récente dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que la notion de race n'existe, comme on l'aperçoit aujourd'hui, basée sur le phénotype, n'existe que depuis les années 1700. Les ancêtres avant ça ne voyaient pas nécessairement à travers accorder des valeurs négatives ou positives au phénotype. Bien sûr, ça pouvait arriver, mais c'était pas tant essentialisé que à partir de cette classification dont, disons, Carl von Linné dans des systèmes de la nature en 1735 et à tout le travail des philosophes des Lumières comme Emmanuel Kant à définir l'état de personne, mais aussi de sous-personne et d'associer les deux finalement. Je veux dire, c'est Kant qui disait cette personne, je paraphrase là, il dit pas ça comme ça, mais il dit comme cette personne, je savais qu'elle était stupide dès le départ parce qu'elle était noire. Et donc, la notion de race, comme on dit souvent, en fait, c'est que ce ne sont pas les races qui ont donné naissance au racisme, mais le racisme qui a donné naissance à la notion de race. Parce que même, je parlais de Carl von Linné dans les systèmes de la nature, va déjà diviser la dite race humaine en quatre races différentes et chacune avec des traits culturels particuliers. Donc, on disait, admettons, l'Asiatique est mené par son opinion. L'Autochtone, l'Américain qu'ils appelaient, des États des Amériques, était mené par ses superstitions. L'Européen est mené par les lois et l'Africain mené par la volonté de son maître. Et donc, dès la première fois qu'on classifie l'être humain, c'est raciste. Et en fait, le racisme, c'est justement catégorisation, essentialisation et hiérarchisation. Et donc, toute cette pensée raciste et ces divisions raciales, cette perception de supériorité et d'infériorité essentialisée, nous viennent de ces époques-là.
Et bien sûr, on a vu que beaucoup de tragédies se sont passées en 2020. Et pensez-vous que ces événements ont permis d'évoluer nos comportements? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu, justement, on parlait de progrès, est-ce qu'il y a eu des progrès là-dessus? Est-ce que les gens sont plus sensibles à ce que c'est que le racisme?
Je pense qu'il y a du progrès dans certains secteurs. Et dans d'autres secteurs, non. Bon, il est encore deux pas en avant, deux pas en arrière. Mais je pense qu'il y a plusieurs institutions qui ont commencer à réviser un peu leurs pratiques, de réviser leur manière d'être, de faire, comment ils constituaient leur CA, qui sont leurs pyramides hiérarchiques. Donc, je pense qu'il y a certaines institutions qui ont fait cet exercice-là. Il y en a d'autres qui ont seulement, comme on dit, surfé la vague, hein, parce qu'à un moment donné, c'était très cool de pouvoir en parler. Et je pense que c'était ça l'inquiétude pour bien des gens, c'est que oui, tout le monde en parle aujourd'hui, mais on fait quoi dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans? Donc, je pense qu'il y a des gens qui l'ont pris au sérieux. Il y en a d'autres pas, mais je crois qu'il y a une certaine avancée qui elle-même produit une espèce de recul, qui cette avancée produit elle-même une espèce de ressac raciste. On pense, admettons, si on veut regarder des cas précis, voyons l'élection de Barack Obama qui mène à l'élection de Donald Trump. Donc, je pense qu'à chaque fois qu'on remet en question la manière dont est notre société, où sont distribués ces privilèges différenciés, bien, il y a des gens qui tout d'un coup s'inquiètent de la perte de ces privilèges-là. Au lieu d'avoir une distribution plus équitable, bien, des gens vont s'inquiéter et puis vont pencher de l'autre côté de la balance, si je peux dire. Et donc, chacun de ces gains, j'ai l'impression, est accompagné d'un certain recul chez certaines personnes d'un point de vue idéologique et social.
Et pourquoi y a-t-il cette discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance dans le monde? Est-ce que vous pensez que c'est la méconnaissance, l'ignorance ou la peur de l'autre?
Wow, je pense qu'il y a... je pense qu'il y a de tout ça parce qu'il y a l'élément individuel et l'élément systémique. Donc, de ce point de vue individuel, donc qui est bien sûr lié à la méconnaissance, l'ignorance, c'est pour moi, j'y vois une différence. C'est-à-dire que la méconnaissance, je le vois comme si on ne connaît pas, mais qu'il y a toujours moyen de se sortir de la méconnaissance en apprenant. Donc, il y a cette ouverture où est-ce qu'on ne connaît pas, mais on est prêt à apprendre et ainsi changer nos attitudes, nos manières de faire. Et d'un autre côté, je vois l'ignorance dans laquelle on est enfermé dedans, tout simplement. Donc, il n'y a aucune porte de sortie, là. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, en fait, voir plus loin. C'est ce que Charles Mills appelle l'épistémologie de l'ignorance, finalement. Et donc, pour moi, il y a cet élément individuel, mais il y a aussi cet élément systémique où, encore une fois, nous sommes tributaires d'un passé raciste, d'un passé qui a privilégié une partie de la population sur le dos d'une autre. Et nous vivons dans ces vestiges-là. Donc, on ne peut pas juste se dire, OK, bon, ben finalement, tout ça, c'était pas bon, on efface, on recommence à zéro, c'est parti. Non, on ne peut pas. On ne peut pas parce que, je veux dire, on ne recommence pas à zéro. On va que perpétuer finalement ces inégalités-là. Et c'est pour ça que si on veut parler du chemin qui est fait depuis Durban en 2001, toute la notion de réparation qui a été abordée à l'époque de Durban, qui a fait controverse et qui aujourd'hui encore fait controverse, qu'on n'ose pas trop aborder, on fait quoi? Il doit y avoir réparation pour l'esclavage, pour la colonisation. Pensons juste à la dette de l'Afrique. Si on effaçait cette dette-là, ça permettrait d'aller plus loin. Bien sûr, c'est des questions qui sont plus compliquées que ce que je dis là, tout simplement. Mais il faut adresser ces questions-là. On fait quoi des réparations? Ouais. Et on ne parle pas seulement d'une question économique, mais il y a toute cette question, qu'elle soit académique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit en termes des lieux d'habitation, des quartiers. Comment ces quartiers sont desservis en termes d'hôpitaux, de soins, d'écoles? Donc, il y a tout ça, mais c'est un chantier. C'est un chantier collectif énorme. Et tant qu'on n'adresse pas ces questions, on va vivre dans ces vestiges inégaux.
Donc, peut-on commencer à construire un monde plus équitable pour tous?
Ben, je pense qu'on doit. On le doit, on n'a pas le choix. On se le doit en tant qu'humanité, on se le doit pour nos enfants aussi. Ce que j'aime dire, c'est que nous ne sommes pas responsables des actions du passé, mais nous sommes très certainement responsables du futur. Que nos descendants vont hériter du présent qu'on leur laisse. Ben, nous, on a hérité d'un passé et on doit agir maintenant pour corriger les erreurs de ce passé-là, les inégalités de ce passé-là, pour léguer quelque chose de mieux. Mais c'est la même chose en environnement. Est-ce que je crois que nous sommes capables en tant que société, en tant qu'humanité, en tant que planète? Je ne sais pas, mais j'ose espérer. Pour moi, je crois qu'on n'a pas le choix d'espérer. Et j'aime dire que j'ai l'espoir d'avoir de l'espoir. C'est-à-dire que regardons vers l'avant, puis on verra pour la suite, là.
Et peut-être en dernière question, pensez-vous que l'on peut créer un monde au-delà du racisme?
Ben, on se doit de créer un monde au-delà du racisme, mais c'est une tâche qui est difficile parce que, en fait, on doit se déprogrammer en tant qu'être humain parce que, tout le racisme est une programmation qui s'étend sur plusieurs siècles. Toutefois, je pense l'espoir, et bon, c'est un peu un cliché de le dire, mais parfois les clichés sont vrais. Et donc, on le voit chez les enfants qui naissent non racistes et qui finalement sont construits socialement à devenir et deviennent racistes. Et donc, je pense qu'il faut revenir vers cette vision, cette innocence-là, ce qui est très difficile, ce qui est, j'allais dire impossible, mais je ne vais pas dire impossible. Et même, je ne vais même pas dire quasiment impossible. Parce qu'on le voit dans la vie de tous les jours, des gens qui étaient racistes et qui changent d'idée, des gens qui n'étaient pas racistes, qu'ils deviennent. Bon, c'est des allers-retours comme ça. Mais je crois que c'est possible. Sauf qu'on doit changer nos institutions, on doit changer nos manières de faire, de voir. Mais je trouve qu'on est mieux situé que nous l'étions il y a quelques années, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. À partir de là, c'est jamais acquis, toutefois. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est visons une société sans racisme, travaillons pour. Puis encore une fois, on verra où est-ce que ça nous mènera.
C'est compliqué, ce sujet du racisme.
Oui, exact.
En septembre prochain, une assemblée générale de haut niveau se tiendra à New York pour commémorer le 20e anniversaire de la déclaration et le programme d'action de Durban sur le thème « Réparation, justice raciale et égalité pour les personnes d'ascendance africaine ». Et c'est avec Webster que se termine notre podcast Escale. Vous pouvez nous retrouver sur notre page internet et sur les médias sociaux Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité et à la prochaine fois pour un nouveau podcast Escale.